la transformation du monde de la création dans le monde de la nature, et corollairement notre sujet pour que l'histoire de l'homme puisse commencer. Et la condition essentielle, d'après le récit de la Torah, pour que l'histoire de l'homme puisse commencer, c'est que l'homme soit doué de liberté, et pour le moment je définirai ce niveau de liberté par le terme français de liberté de choix, qui s'appelle en hébreu la Bechira. Ce n'est pas la liberté absolue, dont nous parlerons plus tard, mais c'est ce qu'on appelle en français le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de choisir entre des options différentes qui sont les données du jugement éventuel de ce jour de l'histoire du monde, qui est le septième jour dans lequel on est rentré. Et pour que cette histoire puisse se constituer, il faut donc au minimum qu'il y ait une garantie de base de cette liberté de choix, de ce libre arbitre, de la Bechira. Et c'est pourquoi le monde va se stabiliser en nature qui garantit l'effectivité de cette liberté humaine. Nous avons aussi appris la dernière fois que pour que ce monde ne soit pas maudit par cette apparente absence de Dieu qui transforme le monde en nature, je ne reviens pas sur les analyses, vous reconnaissez par vous-même, alors la Torah nous indique que le monde du septième jour a été béni, la bénédiction y a été laissé comme trace du Créateur qui se cache, et le projet, c'est le projet de sainteté. Voilà, je crois que pour le moment, c'est la même chose. Il a indiqué, je crois, la dernière fois, le verset qu'il indique. Du moins, le verset que l'on pourrait prendre comme formule pour définir le projet du septième jour, qui se trouve dans le Sefer Vayikra, on l'a vu la dernière fois, c'est chapitre 19, c'est bien cela? Alors là, nous allons avoir une histoire qui a différents épisodes. Je vais les énumérer brièvement. Le plus rapidement possible, nous essaierons d'arriver à l'épisode qui traite de l'identité d'Israël dans le monde. Et ce qui est, premièrement, dans cette adresse, la partie de l'histoire du temps des Avot, les fondateurs de l'identité d'Israël. Mais là, deux périodes précèdent. Une période qui va jusqu'au déluge. C'est une première tentative de civilisation humaine qui va échouer. Elle se développe pendant 10 générations, d'après la tradition, nous verrons dans le texte. Et ensuite, à partir du déluge, jusqu'au temps des Avot, c'est-à-dire au temps d'Abraham, il y a encore 10 générations de Noach à Abraham. Alors, ce sont des études, ça nous en avons parlé depuis l'année, puisque la Torah, en tant que livre de loi, a une préface aussi importante historique. Ce sont des études qui demandent une attention particulière pour comprendre pourquoi c'est à ce peuple que cette loi a été donnée. Et comme on a peu de temps, alors sur ces deux premières périodes, je passerai très très rapidement. Un, deux sujets peut-être, pour arriver le plus rapidement possible à l'histoire qui commence avec Abraham. Mais retenez qu'il y a là une préface très importante. J'ai appris d'ailleurs, il me semble, qu'on vous a distribué les Bayamim de Ezra. Okay. Alors je vais attentivement. Le déroulement des générations depuis Adam jusqu'à Noah, 10 générations, le déluge qui sanctionne l'échec de cette première tentative de civilisation, ensuite depuis Noah jusqu'à Abraham, 10 générations, en particulier à travers la lignée de Shem, qui est une lignée importante à étudier, et nous commencerons donc l'étude de l'identité d'Israël, j'espère dans quelques temps, à partir d'Abraham, pour arriver avant la fin de l'année, à la fin du livre de Bréchit, et c'est là que j'essaierai de consacrer quelques séances à raccorder ce récit des commencements de notre identité avec les problèmes contemporains de la société d'Israël, puisque nous sommes à un recommencement d'histoire qui est par ailleurs le commencement de l'histoire absolue de Dieu. Ceci dit, normalement nous devrions étudier au moins un thème de la première génération de l'histoire humaine, c'est-à-dire les chapitres 2 et 3. Mais je vais laisser de côté intentionnellement, parce que ce sont des récits difficiles à comprendre si l'on n'a pas de suffisamment d'études préalables. Vous avez remarqué d'ailleurs ça dans tout le sujet de l'étude. On essaiera de retrouver ça à la fin. En tout cas, pour notre sujet, ce qui est caractéristique, c'est que deux choses. À la première génération, il n'y a pas de société humaine. Selon le récit biblique, il y a l'histoire d'un homme, Adam Arichaud. Est-ce que vous arrivez à m'entendre suffisamment? Oui, non? Non, oui. On n'entend pas ou? Ah, je parle plus fort. Et à la première génération, donc, il n'y a pas de société humaine, c'est-à-dire il n'y a pas de relation entre des sujets humains différents. Il y a une identité humaine, qui est celle de Adam Arichaud, il y a un seul homme. Et ça, vous l'utilisez, je suppose, quelque part, en hébreu, pour la cohérence de la biblique. Un seul homme, ça veut dire lui et elle, ensemble. Adam et Chava, c'est cela Adam. Et ce que la Torah nous raconte sont les rapports entre eux. Cette identité de la créature à la première génération, qui nous est difficile à diagnostiquer de l'endroit, et le créateur. Alors on laissera de côté pour le moment tout ce thème du péché originel, comme on dit en français, tout ce qui s'est passé. J'y ai fait quelques allusions un peu rapides dans le cours précédent, tout simplement pour vous montrer qu'on est comparé. Et puis, c'est deux remarques qu'il faut, je pense, retenir. D'une part, il ne s'agit pas encore du problème de la société humaine, qui ne va se poser que lorsqu'il y a relation entre des sujets différents, et qu'on appelle en hébreu le problème de relation Ben Adam la Havero. Dans la première génération, c'est un problème de Ben Adam Anakom. C'est ce qui se passe entre la créature et le créateur, pour Adam à travers Hava et pour Hava à travers Adam. Nous aurons l'occasion de le retrouver, mais plus tard. Alors, vous ouvrez le livre au début du chapitre 4 d'Alop. Et nous allons assister dans ce récit à l'apparition et à la naissance de la société humaine d'après le récit biblique. Alors, au minimum, c'est évident qu'une société humaine existe comme telle lorsqu'il y a au moins deux sujets. Et c'est le problème de leur rapport, la nature de leur rapport qui va se poser, et provisoirement, je proposerai la formule suivante, il va s'agir du problème moral. Très rapidement, nous verrons que c'est le problème moral par rapport au problème social. Mais il ne s'agit pas encore du tout, au début en tout cas, d'un problème religieux à proprement parler. Alors nous allons lire le texte. Et je vous signalerai un certain nombre de points qu'il faut étudier d'autre part, mais je choisirai ce qui concerne notre sujet. Bien. Okay. Ah oui, attendez. Vous avez donné deux versets à préparer, ok? Ah bon, alors on commencera donc le chapitre 4 la fois prochaine, je pense. Alors, prenez votre texte au premier chapitre. Donc, gardez l'introduction en tête, je la repasse pas la semaine prochaine. C'est le cas de l'extrême. Ah oui, très bien. Alors, prenez le premier chapitre et au verset 24. Alors, je vous rappelle la structure du récit, c'est qu'à chaque jour, il y a un plan analogue qui apparaît. Premièrement, la Torah formule le projet du Créateur pour le jour en question, c'est-à-dire pour l'étape du développement de l'histoire du monde pour la période considérée. Ici, nous sommes au sixième jour. Et en deuxième point, la Torah formule le récit de ce qu'il y a eu effectivement. Alors, vous rappelez la distinction entre deux niveaux, le projet. C'est Mahashevet Abriya, le projet de la création, ce que le Créateur voudrait voir advenir dans son œuvre, à travers l'organisation du chaos du commencement. Et d'autre part, la réalité, ce qui s'est passé après. Vous rappelez cette analyse, je suppose. Alors, si vous voulez mettre en plan, comme cela, nous allons mettre en plan les différents points du projet du sixième jour. Voyons même le Dieu dit. Que la terre, littéralement, sorte, produise, nefeshraya. Vous allez voir, c'est un terme difficile à traduire. Ça va être l'objet de l'étude, d'ailleurs. Et on peut traduire de deux manières minimum pour le moment. Un souffle vivant, nefesh, ça a premièrement comme sens fondamental le souffle. nafs en phénicien. En arabe, c'est pas très mal. C'est-à-dire, vous retrouverez ce terme par la suite, c'est le souffle qui permet la parole, nefesh. Alors que le souffle qui sort l'expiration et qui permet la parole s'appelle nefesh. Alors que le souffle qui pénètre et qui permet l'inspiration s'appelle ruach. C'est clair? Donc, vous voyez que ce mot de nefesh a plusieurs sens en hébreu. Le sens que nous allons retenir, c'est le sens d'une personne. C'est-à-dire, vous avez trois termes que je vous demanderai de considérer. D'une part, l'âme, l'identité radicalement spirituelle de la personne humaine, l'âme, un neshama. D'autre part, le goût, le corps. Eh bien, tout se passe comme si le terme de nefesh veut désigner cette synthèse provisoire terrestre du lien entre l'âme et le corps qui s'appelle nefesh, et qui est la personne de chacun. Impliquant et l'âme et le corps. Mais au niveau nefesh, c'est là qu'est la responsabilité morale. Le corps n'est pas responsable, en tant que corps, il est soumis au déterminisme des corps. L'âme n'est pas responsable, elle est soumise au goral, à l'histoire des âmes. C'est le nefesh qui est désigné comme étant la conscience de la personne en tant que sujet de la moralité. Par exemple, vous trouverez ces références lorsque la Torah parle de la personne en tant que responsable et donc pouvant être jugée, elle dit nefesh qui techeta, lorsqu'un nefesh aura commis une faute. Alors je sais très bien qu'en français, mais ça, cela ressort des difficultés qu'ont les traducteurs, on traduit nefesh par âme. Pour raccorder tout ce vocabulaire, je vais faire des études un peu plus spécialisées. Alors, je vais ouvrir une parenthèse. Nous avons un midrash qui établit que ce que nous avons à Neshama, l'âme, a cinq niveaux. D'après, d'ailleurs, l'emploi de cinq termes différents dans le midrash, en particulier dans le psaume. Donc, je vais vous énumérer pour ceux qui sont un peu avancés en hébreu. Et nous verrons que le premier niveau, le niveau le plus inférieur de la Neshama, s'appelle Nefesh. Mais surtout dans le vocabulaire des kabbalistes. Alors, il s'agit de Nefesh, le niveau inférieur. C'est-à-dire, la partie inférieure, quoi que ce mot, vous le comprendrez, c'est un peu fou, de la neshama, celle qui anime le goût, celle qui anime le corps. Ça s'appelle nefesh. Et donc, cette partie de la neshama qui s'appelle nefesh est complètement incluse dans le corps humain. Je dirais à la limite intérieure. Le ruach, c'est la partie un peu plus supérieure. On traduit par l'esprit. Et ça, c'est la partie de la neshama qui anime ce que nous appelons la vie intérieure dans le sens psychique, mais déjà très élaboré. Parce que le nefesh, c'est déjà psychique, mais c'est psychique en relation avec le physique. Les savants du Moyen-Âge appellent ça l'âme naturelle, l'âme végétative, l'âme corporelle. Ça, c'est nefesh. Déjà, la partie beaucoup plus vie spirituelle, vie intérieure, vie affective, ça, c'est ruach. Donc, plus haut, il y a ce niveau de la neshama qui s'appelle neshama et qui est, dans ce vocabulaire-là, défini par la capacité de connaissance, la capacité d'intelligence, c'est fait. Et alors, en général, au niveau de la règle, vous voyez pourquoi j'explique cette approche dans ces cinq niveaux, en général, toutes les créatures ont les deux premières parties, c'est-à-dire un effet et un roi, et puis sont enracinés dans le niveau de Neshama. Alors, les rabbins disent une étincelle de Neshama. Le reste des lumières de la Neshama n'est pas encore, nous ne sommes pas encore capables de l'inclure dans notre identité, alors ça nous entoure. Bon, prenez ça comme petit là. Et les autres niveaux, c'est Chaya et Yachida. Alors, vous voyez que le mot de Nefesh, on ne peut pas traduire par l'âme, à condition de préciser toutes les précisions, et d'ailleurs je vais les donner de façon très rudimentaire. C'est des difficultés de traducteur, okay? Ce n'est pas un problème de la langue hébraïque de la Torah. C'est bien clair. Bon. La grande difficulté que nous allons voir tout à l'heure, c'est que ce mot de nefesh, nefesh chaya, vivante, peut être appliqué soit aux animaux, soit à l'homme. Mais vous avez tous deviné, enfin deviné, trouvé avec moi, et l'intention du projet. Tout se arrêt, nefesh chaya lemina. Il peut y avoir différentes espèces, différentes sortes de nefesh chaya. il est évident que vous devenez tout de suite la forme la plus supérieure du Nefesh Chaya, c'est l'homme. Et en tant que c'est le Nefesh Chaya qui parle, où le Nefesh est vraiment parlant. Et nous le verrons dans Rashi immédiatement tout à l'heure. Hein? Alors voilà, déjà dans le projet, il y avait allusion au projet de l'homme. Et puis les autres étaient vivants. Ils n'ont même pas besoin de mettre une allusion à des niveaux inférieurs, d'autres sortes. Et nous verrons dans la réalisation, verset 25, le mot de Nefesh Chaya disparaît. C'est-à-dire que la terre n'a pas réussi à arriver jusqu'à ce niveau de Nefesh Chaya. Bon, alors je reviens au verset 23, verset 24, et Dieu dit, d'autres arrêtent Nefesh Chaya les minas. Que la terre sorte, produise, Nefesh Chaya, comme on les voit comme il veut, selon son espèce, Behema, c'est le mot que nous avons l'habitude d'employer pour dire la bête, l'animal domestique. Varenes, c'est les rampants. Le haïto aret, le bête sauvage de la terre, les mina, chaque catégorie selon son espèce. Vaïchel, et il en fut ainsi. Je vous rappelle qu'il n'en fut qu'ainsi. C'est clair? Alors vous allez vérifier en parallèle. Vaïas, c'est l'okim, et Dieu fit. Vous voyez? Vaïomere l'okim, c'est le projet de Beria. Vaïas, c'est ce qui a eu lieu dans la Asiya, dans la réalité. C'est-à-dire, la terre, dans l'état où elle se trouve, n'a plus laissé faire que ça. C'est pourquoi il y a un Vaïchel, comme à l'époque. C'est bien Dieu qui agit, mais à travers la manière dont la terre le laisse agir. C'est-à-dire que la terre met un obstacle à la réalisation du projet ultime qui est le Nefesh Chaya vraiment. Pour rattacher ça à ce que nous avons appris au début, qu'il y a une certaine autonomie de la création de l'origine de Rabbé. Et là, il se fait inertie. Parce que ce que je suis en train d'expliquer, c'est que Vayomer Elokim, Vayas Elokim. Mais dans le Vayomer Elokim du verset 24, il y a plus de projet que dans le Vayas Elokim du verset 25. Qu'est-ce qu'il a réalisé? Mais c'est le même Elokim. Qu'est-ce qu'il y a entre ce que la terre laisse faire? Parce que le projet, c'est Totsehare, que la terre produise. Alors, ce que la terre produit, c'est bien sûr Dieu qui le fait en tant que créateur, mais à travers ce que le monde lui laisse faire. Est-ce que c'est clair? Alors, voyez, c'est l'okim, Hayatare, la bête sauvage de la terre. Ça, c'est Hayatare, le mina, selon son espèce. Et la behema, le mina. Et la bête, il deviendra bête domestique, selon son espèce. Et Korvenes, Adam. Et puis le rampant de la terre, du sol, le minéru, selon son espèce. Voyez, Eloïse Kito, et l'okim Kito, et Dieu vit que c'était bien, bon, comme nous avons traduit, suffisamment bon. Nekuda. Alors, bilan de ces deux versets. Il y a un projet qui doit finalement arriver jusqu'à l'homme. Et la terre s'essouffle et n'arrive pas jusque-là. Alors, verset 26, Vayomer Elokim, Dieu dit, Naase Adam, je vais le faire moi-même. C'est clair, vous suivez le déroulement, hein? Il y a un pluriel là. Ça, c'est un autre problème que je vais voir tout à l'heure. Hein? Mais, ça veut dire qu'il y a une sorte de bilan à la fin du verset 25. Qui explique pourquoi il y a une intervention particulière de Dieu en ce qui concerne la création de l'homme. C'est que c'était inclus dans le projet du verset 24, mais la terre n'est pas arrivée. Alors, là j'ouvre déjà une parenthèse. Vous savez que par rapport à ce problème, il y a une discussion théorique, idéologique, qui tourne autour de la conception de l'évolutionnisme, et qui est un obstacle à la pensée religieuse contemporaine, moderne, disons, étant donné que la pensée religieuse est censée se baser sur un principe opposé à l'évolutionnisme, et qu'on appelle chez les philosophes le fixisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce nom barbare, le fixisme. Donc, Cuvier, il dit quelque chose. Ça, c'était chez les théologiens catholiques, enfin chrétiens en général, de la civilisation européenne, qui disaient que Dieu a créé les espèces fixées, d'où le fixisme. D'autre part, les savants, à partir des découvertes, des observations, disons, des premiers évolutionnistes, sont persuadés que l'explication, elle n'est pas du tout fixiste, elle est évolutionniste. Est-ce que c'est clair? Et il y a là différents courants chez les évolutionnistes, bon, c'est pas l'objet, il y a Lamarck, il y a Darwin, il y a De Vries, enfin, il y a différents systèmes intellectuels, mais finalement, du point de vue scientifique, c'est un principe complètement opposé au fixisme, et qui est que chaque espèce se déboîte d'une espèce antérieure moins évoluée. Le mécanisme, là, ça divise les savants, Lamarck pour lui-même, Darwin pour lui-même, etc. Le principe est grosso modo le même. Vous voyez, je vous montre ça d'ailleurs tout à l'heure au tableau. Essayez de voir une ligne qui montre une sorte d'évolution. C'est très compliqué, il y a des embranchements, mais une ligne schématique. L'évolution d'une espèce qui se déboîte d'une espèce antérieure plus rudimentaire. Okay? Et en fin de compte, de l'espèce la plus évoluée de l'animal, alors les savants sont controversés, est-ce que c'est un singe, est-ce que c'est un saurien, est-ce que c'est un lémurien, sort un homme. Okay? Ça, c'est la ligne de l'évolution. Mais très schématisée. Okay? Alors, on opposait déjà à l'apparition de cette doctrine de l'évolutionnisme, avec ses différents embranchements, parce qu'encore une fois, Lamarck, c'est pas Darwin, Darwin, c'est pas des autres, je veux dire par là, ils n'ont pas les mêmes difficultés théoriques à résoudre. Comment les plus sortent du moins. Il y a une difficulté théorique de l'évolutionnisme en général, qui est un peu de conscience. Et on opposait à cela, au nom de la tradition religieuse biblique, la doctrine du fixisme. C'est clair jusque-là? Bon. Alors vous voyez que le verset 24 semble être évolutionniste jusqu'alors. Mais, pardon, le verset 24, le verset 26, on s'aperçoit qu'il y a une solution de continuité entre l'animal le plus évolué, dans le sens évolutionniste, le dernier, quel qu'il soit, dans notre récit, c'est incertain. Et on appelle Renachash Haya Aru Mikol Hayat Asadeh. Et d'autre part, l'identité de l'homme, mais une solution de continuité. À la rigueur, et je schématise beaucoup, voilà plus en détail. À la rigueur, la Torah concéderait l'aménagement intellectuel, c'est quand évolutionniste, en le modifiant d'ailleurs, comme nous le verrons, pour les animaux. Dans ce qui concerne l'homme, il y a une solution de continuité. Non, je crois que ça s'appelle solution de continuité. Solution, ça veut dire un arrêt de la continuité. Okay. Bon, regardez dans un dictionnaire scolaire. Il y a une discontinuité. Bon. Et alors, là, est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Alors, je crois que c'est important de remarquer. Tranquillement, le verset 24 est évolutionniste. C'est-à-dire que la terre sorte, comment elle va s'y prendre, comment ça se déboîte, ça n'intéresse pas la terre. Okay. C'est pour donner à manger aux savants qui ont besoin de faire des doctorats en sciences naturelles. Okay. Tout autre chose. Mais. Ce verset 24 nous dit que la terre sort, ça sort de la terre. Et c'est clair ce que je veux dire. Et voilà que ça reste, j'ai employé un terme de mathématiques, asymptote à ce qui était visé. C'est qu'est-ce qu'une asymptote? Ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche, et ça redescend parce que ça n'arrive pas. Okay? Alors, au haut de la courbe de l'asymptote, il y a un être bizarre, qu'on nous appelle ici un serpent. Et vous remarquerez qu'il est bizarre cet être-là. Il est prophète. Je lui parle, je vais remarquer ça dans le récit. Okay. Et non seulement il est prophète, mais il parle. Okay. Il est rusé. Okay. Et un midrash qui dit, il était comme l'homme au niveau de la sexualité, face à face, mâle et femelle, ce qui n'est pas le cas des autres animaux. Et donc c'est bizarre ça. Je vais l'appeler provisoirement, ce serpent-là, un homme de nature. Un hominien, si vous voulez, de nature, naturel. Mais la Torah va nous déboîter. Toute autre identité qu'elle appelle Adam, de toute cette série évolutionniste, quel que soit l'essoufflement avec laquelle cette série arrive en haut de la syntaxe que j'ai indiquée, je vais mettre ça au tableau. Nous allons voir comment, à partir des mêmes observations, paléontologiques, les deux doctrines, du récit de la Torah et de l'évolutionnisme en général, montrent un schéma radicalement différent. Mais les observations de départ sont les mêmes. C'est ça que je voulais dire. Je crois que quelqu'un voulait vous poser une question. C'est une des difficultés de l'évolutionnisme. Je veux dire, tout dans l'évolutionnisme est intellectuellement difficile. Il faut savoir ça. Comment exprimer ça rapidement? C'est la découverte d'un monde d'observation que j'ai appelé la paléontologie, disons les fossiles, qui a posé une question à la science des derniers siècles de la civilisation occidentale. Mais les tentatives d'explication que les savants ont données, qu'ils soient darwiniens, lamarckiens et puis tous les autres, sont des livres. Et c'est plein de contradictions, c'est plein d'impossibilités logiques, par exemple. Mais je crois que la plus grande impossibilité logique, c'est comment le plus sort du moins. Là, il y a une annexe de cette difficulté, et pourquoi ça sort que de un petit peu du moins, pas le reste. Par exemple, si l'homme sort du singe, pourquoi tous les singes ne sont pas devenus des hommes? Pourquoi tu n'es pas un homme? Et alors, ça c'est du roman. Hein? Ça c'est l'interprétation philosophique de ce que les savants ont observé. Et que je vous mettrai au tableau, les fossiles. Hein? Et alors là, Lamarck a une explication, Darwin en a une autre, etc. Mais ça c'est du roman. Hein? Et vous savez, d'une façon générale, dans la culture contemporaine, il faut distinguer entre la science positive et la philosophie projetée là-dessus par les scientistes. Est-ce que c'est clair? La science positive découvre comment Dieu a fait le monde. Et puis la philosophie raconte des histoires là-dessus. Okay? Vous avez compris ce que c'est clair? Surtout la philosophie scientiste. Quand vous avez affaire à un vrai savant, eh bien un vrai savant est modeste. D'abord il dit je ne sais pas. Et puis il ne prétend pas expliquer le phénomène qu'il décrit. Il décrit le phénomène et il dit j'ai une hypothèse d'explication. Mais il dit pas c'est la vérité. C'est quand vous avez affaire à un savant orgueilleux, on appelle ça un scientiste. Des sortes de coquetteries de la science qui n'est pas très sérieuse en philosophie d'ailleurs. Les grands philosophes se moquent éperdument de ces romanciers de la science. Eh, qu'est-ce que tu as compris?
Absolument. L'évolution de l'animal de l'homme.
De la terre vers l'homme. Je vous montre ça. Et le pchat, c'est de la terre. C'est-à-dire, ce Nefesh Chaya, je vais vous montrer un peu à l'avance et puis je me mets au tableau. On va finir par le retrouver que quand la Torah raconte comment Dieu s'y est pris pour le faire. Comment je formule à la manière du Midrash. Alors, on est à la fin du verset 25. Vayar Elohim Kito. Après, je vous citerai des Midrashim qui restent ça. Bon, c'est comme ça, la terre n'y est pas arrivée. Vite, vite, Shabbat va arriver, il faut le faire. Okay? Alors je le fais moi-même. Non, c'est Adam le fait. Ça y est, c'est fait. Ok. Plus fort, c'est moi qui en parle. Mais tout, c'est par la parole. Nous verrons un midrash que si Rachid d'ailleurs, sauf l'homme, c'est par les mains. Alors on a une chose. Okay? Tout est créé par la parole, l'homme, c'est avec les mains. Et Rachid qui dit ça innocemment. On va voir ce que ça veut dire. Ok. Plus fort. Nefesh. Chaya, c'est un mot qui sera désigné pour un des niveaux supérieurs de la Neshama. Oui, qui s'appelle Chaya, plus haut et Yechida. Si, elle aurait pu produire le Nefesh jusqu'au niveau Chaya. Nefesh Chaya. Qui est, si tu connais les termes de la Kabbalah, c'est Malchut de Chochma, qui s'appelle Nefesh Chaya. Si tu ne connais pas, tu oublies. Alors prenez le chapitre 2 au verset 7. On va lire le chapitre 2, verset 7. Et c'est là qu'enfin, on va voir ce mot de Nefesh Chaya apparaître. Chapitre 2, verset 7. Vous y êtes? Vaïtse Hachem Elohim. Et Hachem Elohim forma et à Adam l'homme, Afar Mina Adama, poussière de la terre. Ça vous apprendrez que cette poussière, c'est pas de la poussière. Et en tout cas, c'est pas la poussière du balai. Vous voyez la poussière, en français. Et ça, il y a une atmosphère morbide des traductions chrétiennes. Tu n'es que poussière, tu rentres à la poussière, vous voyez que mon Dieu a fait de la poussière. Hein? Et Rapha, c'est ce qui donne la vie à Adama. Finalement, vous apprendrez qu'en fin de compte, on mange de la Adama. Puisque les fruits que l'on mange, tout ce que l'on mange vient de la Adama. Hein? Et c'est la Adama qui continue à nourrir le corps qu'elle a produit de la matière vivante, qui a donné les fruits, elle a donné un corps. Vous comprenez? Alors, si vous traduisez poussière avec cette espèce de signification funéraire goy, imaginez, hein. Afar, ça veut dire ce qui porte le fruit. Vous voyez, péré, je prends Afar, la division en fruit. Bon, je referme la parole. Vaïpar ve Afar, Et il anima à son visage, il insuffla dans son visage, Nishmat Chaim, l'âme de vie, Vayi Adam et Nefesh Chaya. Et l'homme devint Nefesh Chaya. Vous voyez ? C'est là qu'on retrouve Nefesh. Alors, prenez Rashi sur Vayi Adam et Nefesh Chaya. Il est dit. Afa, on traduit la poussière. Mais en hébreu, ça veut dire ce qui, dans la Adama, est capable de donner des fruits. Alors c'est de là que le corps a été fait. J'ai remarqué que nous mangeons, finalement, ça rapport de la main. Ça continue à restaurer notre corps. C'est de là la restauration. J'ai toujours frappé par cette image. La poussière, en français. On va emballer de la poussière. Là-dedans, il y a un homme qui sort. Je vais vous lire un autre verset, je vais vous donner un chidouche dans un autre verset. Vous croyez vraiment que Dieu a créé un homme de la poussière pour le renvoyer à la poussière? Et c'est à ça qu'il joue de toute éternité. Ça, c'est la vie d'égoïsme. Alors, vous allez prendre le verset après la faute, mais un verset qui parle de ça. Sanction de la faute, une faute qu'on ne comprend pas, Ken, mais en tout cas on comprend que c'est une faute, est exprimée comme ça, Bezerat apecha tochal lechem, par la sueur de ton front tu mangeras le pain. Ad shufra el adama, jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Tu retournes à la terre, on a tendance de traduire jusqu'à ce que tu sois enterré, mais il y a écrit jusqu'à ce que tu retournes à la terre. C'est ce qui est qui mena l'ukarta? Car d'elle tu as été pris. Pris, c'est clair? Qui, afar atta, car tu es poussière, vers afar tashuv, et à la poussière tu retourneras. Bon, c'est énorme ça. On va dire comme ça, sans se révolter. Alors quoi? Il n'y a pas de signification à l'histoire humaine. On est pris de la poussière, et on retourne à la poussière, et ça recommence. Et c'est évident que la Bible ne peut pas dire une chose pareille. Prenez ce bien. Okay. On a été imprégné, subjugué par des lectures tristes de Goïm. Sur ce livre. Okay. Alors, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les taramim. C'est l'accentuation du texte qui nous permet de comprendre le sens de la phrase. Vous savez ça? Okay. Bon, ceux qui n'ont pas appelé les taramim, vous faites un exercice là-dessus. On veut dire un chidouche. Un chidouche, c'est-à-dire un renouvellement de sens qui apparaît des taramim. Ça va de bien. En essayant de l'accentuer en français. Prenez à partir de Kiafa. Kiafa Ata. Bien, Chofarolev, Zakepkatev. Du point de vue des mots d'état, des noms des taramim. Vous avez appris les noms des taramim? Bon, allons me faire confiance. Chofarolev, Zakepkatev, c'est, disons, il y a un point virgule. Kiafa Ata. Vous avez vu, sur le mot de Ata, il y a deux points en haut. Okay? C'est clair? Ça s'appelle Zakepkatev, c'est un point virgule. Car tu es poussière. Vers Afar, sous le mot de Afar, vous avez un tarha, comme ça, un accent disjonctif. Vers Afar, tachou. Alors s'il y avait, et tu retourneras à la poussière, il y aurait un marich, pas un tarha. Vers Afar, tachou. Et à la poussière, tu retourneras. Je retraduis, il y a écrit. Car tu es poussière. Et à la poussière, fais attention, tu risques de retourner. Alors tachou, fais tchou. Ça va?
Il y a quand même un danger.
Par où? Par où? Bien sûr, s'il n'y a pas de choix. Mais regardez l'accumulation de choua. Atsu frère Adama, qui me mène à l'Ukarta, qui a affarat la vela affar, tachou. Je pourrais, si c'était l'objet du cours, vous donner énormément d'exemples de lectures juives, enfin traditionnelles. Du verset qui nous font lire ça en hébreu et pas dans des traductions de traducteurs. Il faut bien se méfier de ça. Alors, en tout cas, pour le moment, le postulat pour cette année, c'est que les récits de la première génération, on les étudiera pas, on les étudiera à la fin de l'année. Il faut savoir un peu plus de choses. Et en particulier, bon, non, il n'y a pas de problème. Je ferme la parenthèse. Je reviens donc à ce schéma que je voulais vous expliquer, et qui est comme ça. Vous avez remarqué dans les synagogues, quand le chazan chante la Torah, si jamais il se trompe d'un taham, il y a une émeute dans la salle. Vous avez remarqué. Le plus extraordinaire, c'est que les gens qui l'interrompent n'y comprennent rien. Mais ils se surveillent. Attention, t'as fait une faute. Ça passe très bien, c'est pas grave. Mais il faut dire les choses exactement si on a dit de... sinon on a dit d'autres choses. Vous comprenez ça? Donc voilà, je vais essayer de vous montrer ça au tableau. Rapidement. En reconstituant un schéma explicatif. Voilà. Alors, imaginons que, imaginons que, à partir de la Terre, Totse à Arendt, Nefesh Chaya, il fallait arriver à un certain niveau que je vais appeler Nefesh Chaya. Excusez, je suis mal avec ma main, mais c'est clair, hein. Il fallait arriver à un certain niveau que l'on a. Or, qu'est-ce que les évolutionnistes ont observé dans l'observation des fossiles? Ils ont fini par prendre des fossiles. Les fossiles sont restés sur Terre, hein, de manière de plus en plus organisée. Ouais, ici, je ne sais pas, vous avez un cheval, et puis là, vous avez un bœuf. Par exemple, les évolutionnistes, le bœuf sort du cheval. Je ne sais pas si c'est ça. Non, l'inverse. Le cheval sort du bœuf. Le bœuf est moins différencié, le cheval est plus différencié. Ouais, vous savez ça. Chez les savants, ils ont énormément de tables, de croquis, de tout ce qu'ils veulent. Bon. Alors, ils rangent ça. C'est impressionnant. J'ai fait ces études-là, d'ailleurs, à Gare. Et c'est très impressionnant de voir les crânes paléontologiques se ranger comme ça. Comme si l'un se développe de l'autre. Okay. Alors, quel est leur schéma explicatif? C'est que, il y a eu d'abord une première poussée. Il est arrivé là, comme un batracien. Okay. Alors, du batracien, il est resté un fossile. Du batracien vivant, il est sorti, je ne sais pas quoi, une belette. Okay. Alors, de la belette, il y a une petite belette. Vous voyez la ligne de l'évolution? Hein? Se déboîte. Bon. Nous avons appris d'après la Torah que cet effort de la Terre s'était soufflé et était asymptome. Là, c'est le fameux serpent qui redescend, qui perd ses bras, mais il est utilisé. Et puis, il se met à ramper. Mais le schéma de la Torah est tout à fait autre. Ça veut dire que, à partir en fait, de la même observation, il y a un premier effort de la Terre qui arrive jusqu'à. Il y a un deuxième qui arrive jusqu'à. Il y a un troisième qui arrive jusqu'à. Vous voyez, ce qui fait qu'en projection, c'est les mêmes fossiles, c'est les mêmes savants, okay, mais l'explication est un peu différente. C'est clair? Alors, je vais vous annoncer un peu la prévue. C'est pas que l'homme sort de l'animal, c'est que l'animal est un être vivant qui n'a pas réussi à arriver à être homme. Il est resté à saint -Denis. Voilà, habitué à cette formule, réfléchissez, ça vous permettra de remettre ces choses en place, mais il faut du temps. Parce que l'habitude, c'est de la répétition, si je répète. Voilà, je vais vous montrer tout à l'heure le schéma évolutionniste. Hein. Ça se dévoile par hein. Et avec toutes les difficultés, par exemple, la question qui a posée. Pourquoi ici, ce n'est pas toutes les belettes qui sont devenues des sangliers hein. Alors, ici, nous avons un tout un schéma, c'est-à-dire de la même capacité de vie qui sort de la Adama, de son impérat par Adama, il y a une première tentative, elle est arrivée là. Il y en a une deuxième, elle arrive là. Une troisième, elle arrive là. C'est clair? Et la dernière est arrivée là. Et alors tu as dit, ils n'arrivent pas, je vais le faire à partir de là. C'est clair? C'est pourquoi il y a ce que vous appelez une solution. Et il y a ici un moment névratique, vulnérable, de concomitance, et ils vont se faire des choses vers les serpents d'homme. Et le serpent va réussir à empoisonner l'homme, parce que c'est pas ce qu'il a dit. C'est raconté dans la vie, ok? Ok? Et après, ça vous explique pourquoi, vous connaissez cette science qui s'appelle l'embryologie. Ça vous explique pourquoi l'embryologie récapitule la paléontologie. C'est-à-dire, dans l'ambiance de cette série-là, vous avez la récapitulation de ce qui se passe là. Vraiment, ça recule moins. Alors, d'après les évolutionnistes, inverse ça en disant, vous voyez bien qui sort de là-bas. C'est l'inverse, c'est l'homme qui est arrivé là. Est-ce que c'est clair? Voilà. Il vous suffit de remettre les choses en ordre. Mais... Les animaux sont, si tu veux, ta question, sont le signe, l'expression de l'échec de la terre. Il faut les plaindre. Et je me rappelle, Rav Tzvi Yehuda nous expliquer une fois, on avait la question. Expliquez-nous cette ânesse de Bilaam qui parle. Okay? Une ânesse qui parle. Et vous connaissez, une blague, vous connaissez l'expression hébraïque, en son prime à l'ânesse. Sauf Bilaam. Non, c'est de l'hébreu. Alors il a demandé, qu'est-ce que c'est ça une ânesse qui parle? Alors il nous a répondu, grosso modo, je ne parle pas les termes exacts, il nous a répondu, deux problèmes. C'est pas l'ânesse qui parle, c'est l'ânesse qui ne parle pas. C'est clair. Vous avez compris? Alors, ça veut dire que le projet, c'est un être vivant qui parle, Hayam Babé. Et puis, dans le Totsearet, on arrive à cet essoufflement par palier. Okay? Et alors, impossible. Naturellement, la nature n'arrive pas à donner l'homme. Elle donnerait à la rigueur qu'un homme naturel. Cet être que la Torah appelle le serpent qui parle, qui entend mieux, une maîtresse naturelle. Vous avez compris? Plus tard, je vais vous donner une anticipation du sujet. Plus tard, vous verrez que c'est très important, parce que j'espère pour vous, vous allez étudier les Midrashim qui a sur tous ces versets. Vous verrez que lorsque Ésaü va naître, il va avoir un serpent tatoué sur la hanche. Vous connaissez ce Midrash-là? Non, vous ne connaissez pas le verset, vous chantez ça à Abdallah, qui l'onahash beyako, car il n'y a pas de serpent en Jacob, et il est tout entier chez les amis. Alors ça veut dire que vous avez deux types d'hommes dont la Torah parle, les êtres de nature, et d'ailleurs ils pensent d'eux-mêmes qu'ils sont des animaux, c'est eux qui le disent, regardez l'évolutionnaire. Et puis les hommes dont parle la Torah, ils se ressemblent. Mais un, il a un serpent tatoué sur la hanche, et l'autre, il en a ras bien. Voilà, ça va très loin, cette histoire. Je me rappelle, le dernier cours d'anthropologie que j'ai lu en France, quand je faisais mes études à Paris, vous connaissez le musée de l'homme au Trocadéro, ils sont passés là-bas. Voilà, un vieux professeur s'appelait le professeur Rabot, pour lequel j'avais beaucoup d'admiration, et tout d'abord, il était très vieux, un savant. Et puis, le dernier cours qu'il nous a fait, vous prenez ça prêt après, c'était sur la station de bouche chez l'homme. C'est que l'homme se tient debout. Bon, c'est un mystère, on ne sait pas pourquoi. Alors, on a appris toutes les théories possibles et imaginables, toutes fausses. Et puis, à la fin, il dit, bon, eh bien, il y a une force psychique qui expliquerait pourquoi l'homme se tient debout. Vous savez, quand un homme debout s'endort, il tombe. Okay? Alors, quand un cheval s'endort, il ne tombe pas. Et la station debout n'est pas naturelle au corps humain. Les médecins savent ça. Okay? Il y a des maladies qui s'appellent des ptoses, comme chez le casier. Okay. Et alors, il y avait donc la théorie du polygone de sustentation, tout ce que vous voudrez, ça ne marche pas. Car on a fait vraiment cette idée. Et je me rappelle, le pauvre était déjà très vieux, courbé, il parlait comme ça en marchant sur l'estrade. Il dit, après tout, nous ne sommes que des animaux modifiés. Je l'ai regardé, je lui ai dit, bon, moi, je suis là, peut-être pour lui, c'est vrai. Mais nous savons que même pour eux, c'est pas vrai, en principe. Seulement, il y a des choses bizarres. Une civilisation entière qui subitement décide, nous venons des animaux. Je sais pas si vous vous rendez compte, de l'homme. Et alors, quand on leur dit, ah tiens, j'ai vu ça dans le Midrash, vous n'êtes que des animaux, ils se mettent à crier. Mais c'est eux qui le disent. Vous avez compris, oui. Réfléchissez à ça.
Comment est-ce que la préhistoire, on a pris.
Tu as dit trois choses à la fois. Il y a trois thèses dans ce que tu as dit. Et les fossiles de la préhistoire, bien sûr, c'est le signe que ça a existé. Bon, maintenant, de quoi il s'agit? Ça, c'est la deuxième chose. Eh bien, il s'agit de tous ces êtres qui n'ont pas réussi à entrer dans le temps de l'homme. C'est clair? Et alors, leurs fossiles se sont projetés sur les observations des paléontologues. Maintenant, ceci dit, ce que j'ai ajouté par les derniers Midrashim, c'est que même après le temps de l'homme, la Torah parle de ça même dans les lignées humaines. il y a des êtres humains qui consentent à redevenir des êtres de nature. C'est clair ? Bon, j'ai anticipé, j'ai toujours tort de vous dire des choses à l'avance. Mais c'est pour vous lancer comme ça des petites flèches.